Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
À la fin du mois de septembre dernier, notre collègue Luc Lavoie a quitté l'antenne pour des raisons de santé. Il a partagé avec les auditeurs un diagnostic qu'il avait reçu de cancer. Ça voulait donc dire chirurgie, ça voulait dire traitement, convalescence. La bonne nouvelle, c'est qu'il va mieux et qu'il sera de retour lundi avec Luc Ferrandez à l'émission du midi. Luc, bonjour.
Salut, Paul.
D'abord, comment ça va?
Ah, ça va bien. Franchement, ça va très bien. Après ce que j'ai connu, je me sens vraiment bien.
Quand tu dis « tu te sens bien », ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai cessé d'avoir mal un peu partout. Ça veut dire que je n'ai plus les effets secondaires attribuables au traitement. Ça veut dire aussi que je me sens mieux dans ma tête, parce que quand ça dure pendant des mois, ce que je viens de décrire, à un moment donné, tu deviens un peu maussade, disons, pour employer un euphémisme.
Remontons dans le temps. Quand tu as reçu le diagnostic, ça a été évidemment un choc, j'imagine, puis tu as réagi de quelle façon?
Ben écoute, c'est drôle, tu réagis... Moi, en tout cas, je me suis senti comme perdu. Tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire. T'écoutes ça, puis soudainement, tu te rends compte que ta vie est entre les mains de ces spécialistes-là, puis il faut que tu l'acceptes, et ça, c'est bien difficile. Et d'ailleurs, là-dessus, je rends hommage à un de mes amis, là, puis que je nommerai pas, et qui a traversé quelque chose d'un peu similaire, et qui me disait, si tu veux que ça marche puis que tu t'en sortes, il faut que tu te dises, fais confiance à ces professionnels-là, sinon tu t'en sortiras pas. Si tu continues toujours à, excusez l'anglicisme, à double-guesser tout le monde, tu t'arriveras nulle part. Il faut que tu fasses confiance, et c'est ce que j'ai fait.
Quand on te dit cancer du poumon, es-tu le genre de personne qui veut avoir l'heure juste ou quelqu'un qui veut juste savoir l'essentiel?
Ben non, tu veux avoir l'heure juste, et je dois dire là-dessus que les médecins sont assez, je dirais pas, c'est pas brutal, mais c'est carré, là. Tu sais, tu veux savoir, ben voilà, c'est ça, ça, ça et ça. Alors au début, tu trouves ça un peu, c'est presque agressant, mais à un moment donné, t'es reconnaissant, je veux dire, ils te racontent pas des histoires, ils te disent, bon, tu veux savoir ça, ben c'est ça, ça et ça. Alors tu suis la parade.
Et ça implique quoi comme traitement?
Ah ben, tu vois, le cancer dont j'ai été victime est un des cancers les plus répandus. Et pour cette raison-là, on dit que dans le domaine de la médecine, dans les 10 dernières années et en accéléré depuis 5 ans, les plus grandes avancées ont été dans le traitement de ce cancer-là. Et donc, ce que j'ai reçu, c'est un traitement d'immunothérapie mélangé avec de la chimiothérapie. L'immunothérapie, c'est quasiment un miracle, ce qu'ils ont réussi à faire depuis quelques années. Entre autres, avec la participation de chercheurs de Montréal, ce sont des consortiums internationaux de centres de recherche, d'universités, d'hôpitaux qui travaillent ensemble et qui ont développé ce médicament-là ce traitement-là, qui fait que aujourd'hui, je suis en train de vous parler et puis que j'ai hâte de reprendre le micro. Ils ont avancé d'une façon incroyable. Le type de diagnostic que j'ai reçu au mois d'août, il y a encore moins que 10 ans, c'était presque une condamnation, tu comprends? Et maintenant, c'est le contraire. Il y a des cas comme le mien, il y en a plus qu'un. C'est pas un cas miraculeux, le mien. C'est ceux qui ont pu bénéficier de ces traitements-là. Moi, par exemple, le traitement d'immunothérapie que j'ai reçu, c'était une nouvelle génération J'ai été un des premiers au Canada à le recevoir. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même des tests qui ont été faits, mais en termes de médicaments homologués, j'ai été un des premiers à le recevoir. J'ai été chanceux. Et ça donne ces résultats-là. Je me souviens que mon généraliste, le premier avec qui j'ai parlé, le docteur François Mercier, m'avait dit « C'est moins pire que tu penses. » Parce que je pense que j'étais un peu nerveux sur la ligne. Il dit « Je te le dis, c'est moins pire que tu penses. C'est presque un miracle ce qu'ils ont réussi avec l'immunothérapie. »
Mais quand même, quand t'entends le mot « cancer », quand le verdict tombe, on passe dans la tête à peu près tous les scénarios.
Ben c'est sûr, c'est sûr. Hein. C'est la première fois, dans mon cas en tout cas, c'est la première fois que tu te retrouves dans un scénario où t'es confronté à la mort. C'est là, là, puis on suit le protocole du traitement, et puis tu te dis, ben si ça marche pas, là, ben je vais mourir. Je te dis que ça tient, disons, les sens assez éveillés.
Ça veut dire que t'as arrêté de fumer?
Ah, ça a été dur. Ça a été assez dur, en effet, parce que j'étais un vrai fumeur. Mais oui. J'ai eu des récidives, je l'admets.
OK, mais je veux t'entendre sur ce passage-là, parce que, tu sais, veux pas, il y a beaucoup de gens qui t'écoutent ce matin puis qui se disent, ouais, mais ben là, tu sais, on pense pas à ça quand on fume. On le sait, mais on y pense pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Oh, tu comprends que le grand pêcheur que je suis n'a pas de leçons à donner
non,
à personne.
Non, pas des leçons.
Mais moi-même, Paul, écoute, je peux pas dire le contraire. Je le savais, c'était quoi le danger. S'il y a quelqu'un qui connaît le danger, c'est le fumeur. Hein? Je le savais que le danger était là, pourtant j'ai continué. Alors, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui dit « Wow, j'ai vu la lumière. »
Non.
Écoutez-moi.
Non, ça je suis d'accord, mais t'as quand même... D'abord, t'as pris la décision d'arrêter, t'as eu des rechutes, ça n'a pas été facile.
Mm-hmm.
Ça a été non, difficile c'est... quand même.
Ah ben oui, écoute, quand ça fait des années que tu fumes, et comme me l'a dit un des médecins, on peut pas nier que la cigarette, qui a rien de très très bon, a quand même une vertu, c'est que c'est une forme de calmant. Et ceux qui se sont habitués à ça, ben ça leur manque.
Quand on suit les traitements, puis il y a des intervalles, puis il y a des moments, j'imagine, où on se sent mieux, puis d'autres fois, on se sent un peu moins bien, puis tout ça. Tu as dit tantôt que tu jonglais, que tu as fait une espèce de ménage dans ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, ça veut dire que, par exemple, moi, quand j'ai arrêté de travailler, c'était parce que les médecins insistaient. Moi, j'avais dans ma tête que j'allais continuer, puis tout ça. Et ça veut dire que tu te retires du travail. J'ai jamais fait ça de ma vie, me retirer du travail. Tu te réveilles, puis tu dis, bon, là, je travaille plus, je suis chez moi, je suis un horaire qu'on m'a donné, il faut que je sois à l'hôpital à telle heure, tel jour, rencontrer tel médecin, il faut que j'aille passer tel test. Et là, ta vie devient complètement organisée autour de ça, et t'es toujours en train de penser à ça. C'est ça qui est le pire, Paul. C'est que tu y penses constamment. Tu te lèves, tu y penses. T'as la moindre douleur, tu dis, ça doit être lié. C'est pas nécessairement le cas, mais c'est ce que tu penses. Et là, tu deviens, je sais pas, dans ta tête, ça finit par faire mal. Ça finit par donner des maux de tête, crois-moi.
Mais comment t'es avec l'entourage? Est-ce que les gens t'en parlent? Tu veux pas en entendre parler? Comment t'as...
Ben, ça, c'est une des affaires. C'est assez particulier, ça. J'avais pas vu ça venir. C'est que quand t'as ça, puis que ça se sait autour de toi, tout le monde devient un expert en cancer. Je veux dire, là, c'est comme, ah oui, quel stade t'es, ah oui, ah ben là, tu réponds mécaniquement, tel stade. Ah ouais, mon chum, un tel, lui, c'était un autre stade, hein, oui, c'est correct. Puis là, ils vont-tu te faire ci ou ça, puis là, tu commences ci, tu commences ça, des fois, c'est complètement à côté de la plaque. Ça finit par être un peu agaçant. T'as toujours... Et moi, j'ai finalement adopté la position de dire, écoute, j'ai pas grand-chose à dire, là. Il y a d'autres gens que moi qui sont malades. Je suis malade et puis j'ai pas... Vos conseils puis votre opinion éclairée, franchement, ça m'aide pas beaucoup.
À quel moment t'as su que le traitement avait donné de bons résultats puis que tu pouvais envisager de retourner au travail?
Avant-hier, ben oui.
T'as pas niaisé trop.
Non, ben j'ai eu une chirurgie. Non, j'ai pas niaisé. J'ai eu une chirurgie le 19 décembre. Et puis après ça, ils font ce qu'ils appellent, je crois qu'ils appellent ça une analyse pathologique. Et j'attendais ces résultats-là. Je savais que c'était important. Mais tu viens que tu sais plus, Paul, tu comprends? Tu te fais opérer le 19 décembre, c'est Noël, tu veux être là avec la famille, les petits-enfants, tout ça. T'es pas très en forme, puis là, ça finit par... Bon, c'est pas une période bien agréable. En tout cas, peu importe, je m'en allais les rencontrer, principalement le docteur Spicer, qui est le chirurgien qui a procédé à l'intervention chirurgicale. Là, je m'installe dans son petit cubicule, puis il a l'air particulièrement cool. C'est vrai que c'est un gars cool, là, mais il a l'air particulièrement cool. Et là, il commence à, si on veut, cocher chacun dans la liste. Là. Telle chose, c'est correct. Telle autre, c'est correct. Telle autre, c'est... Puis là, j'étais là, puis je me disais, là, il va avoir une surprise. Là, il va m'annoncer quelque chose. Là. Eh bien, non. J'ai dit, ben c'est tout. Il dit, oui. Et là, c'est lui qui me pose la question. Il dit, aimez-vous ça, votre job? Ben, j'ai dit, je l'ai jamais aimé autant que maintenant. Là. Depuis que je ne le fais plus, je me demande comment faire. J'arrête pas de tourner en rond. Bon, ben, il dit, si vous aimez votre job, là, vous pouvez recommencer tout de suite, là. Ben, j'ai dit, tout de suite. Dis-le, là, cet après-midi, c'était un midi. Ben, au lieu d'être l'après-midi, ça a été le lendemain, j'ai recommencé à travailler. Et voilà, j'étais tellement content de revenir. Et juste ça, c'est une forme de traitement. Mentalement, tu te sens tellement mieux.
T'as dit quelque chose de très important au début. T'as parlé de la recherche médicale à Montréal. Puis souvent, on l'oublie, mais on a des institutions implantées avec des chercheurs de renommée internationale, que ce soit le Centre de recherche du CHUM, il y a un paquet d'autres institutions. Et on n'en parle pas assez souvent, je trouve.
T'as tellement raison.
Du travail qu'ils font, puis des découvertes qu'ils arrivent à propulser à l'avant.
Ah non, t'as tellement raison. Moi, j'étais pas au courant de ça. Par exemple, ce chirurgien, Jonathan Spicer, c'est un trésor pour le Québec, parce que c'est un gars qui a fait son PhD, son doctorat, en plus de sa spécialité, et qui a travaillé dans le plus grand centre d'oncologie au monde, celui d'Houston au Texas, le MD Anderson, et qui est revenu à Montréal, d'où il était originaire, et qui, en plus de faire lui-même de l'intervention chirurgicale, il est professeur et il est chercheur. Ce médicament qui a été utilisé pour moi, il faisait partie de l'équipe internationale de recherche qui l'a développé. Alors, j'ai découvert à travers ça, écoute, on parle beaucoup contre le système de santé. Ouais. Je pourrais prendre le côté négatif, Paul, puis te dire toutes les affaires que j'ai traversées qui n'étaient pas toutes aussi drôles les unes que les autres, mais quand tu es entre les mains de professionnels, faut bien le dire, ils sont de classe internationale. Et j'étais tellement heureux de découvrir ça, de savoir qu'on est impliqué à ce niveau-là, mondialement, dans la recherche de ces produits-là qui ont fait tellement pour la vie de milliers et de milliers de personnes. Et l'autre chose, tiens, je vais faire du coq à l'âne, mais je peux pas m'empêcher de le faire. Pendant que je vivais les derniers moments, les dernières semaines, il y a eu des nouvelles qui sont sorties comme de quoi. Moi, j'ai été traité au CUSUM, qui est le Centre universitaire de santé McGill. C'était pas un choix, c'est que quand ils ont fait le diagnostic, à un moment donné, le généraliste cherche l'endroit où il y a quelqu'un de disponible, puis bang, je suis tombé comme ça. Et là, ben, je m'attendais de m'en aller dans un univers anglo-saxon. Mais c'est pas vrai, là. Ceux qui racontent qu'on peut pas être servi en français, mais j'étais même très, très impressionné, là. C'est un endroit où tout est bilingue et tout est parfaitement, en fait, est servi en français à la perfection. C'est un hôpital ultramoderne. Alors, je veux le souligner, il y a des gens dans ça. Il y a aussi le docteur Ofiara, l'oncologue, qui a été extraordinaire. Alors, on a ça chez nous. Si on était capable d'organiser ce qui est autour de ces grands professionnels-là, on aurait un très bon système de santé.
Très heureux de voir que tu vas bien, puis hâte de t'entendre lundi. Merci, Luc.
Au plaisir, Paul.
Au revoir. Luc Lavoie.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
L'Essentiel de Paul Arcan.
Alors, ce matin, on apprend qu'il y a eu une étude auprès de pratiquement 800 000 enfants du Québec concernant les diagnostics du TDAH, c'est-à-dire trouble, évidemment, déficit d'attention, hyperactivité. Et faut pas tirer des conclusions ultra rapides, mais quand même, c'est particulier de découvrir que des enfants qui sont nés au mois d'août, au mois de septembre, par exemple, donc juste avant la date limite qui est le 30 septembre pour l'inscription à l'école, ont probablement reçu plus de diagnostics que les autres. Donc, ceux qu'on appelle, et c'est dans la presse ce matin que vous allez retrouver les détails, c'est une enquête de Katia Gagnon, les bébés de classe. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment TDAH ou est-ce qu'on a affaire à des enfants qui sont peut-être moins matures, qui sont plus bébés, comme on dit, un peu plus turbulents? La question se pose. J'en discute ce matin avec Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Joël Monzé, bonjour.
Bonjour.
D'abord, qu'est-ce que vous comprenez de cette recherche puis de ses conclusions jusqu'à maintenant?
En fait, ce qu'il y a, c'est que ce qu'on constate, en fait, quand on regarde les enfants qui sont dans une même classe, les enfants qui sont nés durant l'automne, donc ce sont les plus vieux de l'année, avec les enfants qui sont nés pendant l'été, on constate, en fait, que les enfants qui sont nés pendant l'été, donc qui sont les plus jeunes de la classe, sont beaucoup plus souvent étiquetés TDAH que ceux qui sont les plus âgés de la classe.
OK, mais est-ce qu'ils sont TDAH ou c'est une étiquette qu'on met un peu trop vite?
Mais je dirais pas que c'est une étiquette qu'on dit un peu trop vite. Ce qu'il faut se comprendre, c'est que quand quelqu'un a le diabète, il y a des tests biologiques très clairs, très poussés, et on ne peut pas faire de mauvais diagnostics avec des maladies physiques. Dans le problème, en fait, le problème avec la psychologie ou la psychiatrie, c'est que c'est une science clinique, donc ce sont des conventions. Et une chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a une trentaine d'années, l'homosexualité était considérée comme une affection psychiatrique. Aujourd'hui, heureusement, ça ne l'est plus, mais c'est certain que les experts, parfois, peuvent peut-être se donner des critères pour déterminer s'il y a une maladie ou s'il n'y a pas une maladie dans l'ordre psychiatrique, qui ne sont peut-être pas nécessairement cohérents avec ce qu'on voit sur le plan biologique ou sur le plan social.
Là, je suis pas certain que je vous suis, là. J'essaie juste de comprendre, là, parce que
oui. On
sait qu'il y a beaucoup de diagnostics au Québec. On sait aussi qu'en termes de consommation de médicaments, semble-t-il qu'on a la plus forte consommation sur l'échelle canadienne. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi nos enfants sont si différents?
Mais en fait, il y a deux questions. La première question, c'est la question des bébés de la classe. Quand on regarde des données en Colombie-Britannique ou aux États-Unis, on a la même chose. On remarque par exemple que 60% des enfants médicamentés sont les plus jeunes de la classe. Ça se situe aux alentours de l'été pour les États-Unis comme le Québec. Donc on est assez cohérent avec ce qui se passe à l'extérieur. Et ça se situe aux alentours du mois de novembre et décembre pour la Colombie-Britannique parce que leur date de butoir pour passer d'une classe à l'autre, c'est le 31 décembre. Donc on voit vraiment que parfois, la manière dont on va observer l'enfant, la manière dont on va évaluer la fréquence d'un certain nombre de comportements qu'on associe au TDAH, eh bien, on se rend compte, en fait, que on va peut-être beaucoup trop vite dans la manière de diagnostiquer les plus jeunes de la classe et on se trompe de direction parce que on confond... Vous savez, quand on regarde un enfant qui est agité, souvent, c'est de l'anxiété, mais ça ressemble à de l'hyperactivité, mais ce n'est pas nécessairement un problème de TDAH. Quand on voit un enfant qui est impulsif, normalement on devrait avoir de la violence avec, mais on peut aussi avoir un enfant qui est impulsif parce qu'il est juste pas bien. Et si on ne prend pas conscience de l'ensemble des facteurs qui peuvent amener les comportements, qu'on fait juste des analyses avec par exemple le Connors qui est un des tests les plus utilisés, eh bien on risque peut-être de se tromper dans la compréhension du comportement de l'enfant. Le diagnostic va être là, éventuellement la médication, mais on ne répondra pas aux besoins de l'enfant.
Ce que vous me dites, c'est que on met l'étiquette TDAH à des enfants, les bébés de classe, comme on les appelle.
Mmh. Oui.
Alors, puis avec la médication bien souvent qui vient avec, là, alors qu'on a affaire à des enfants peut-être un peu turbulents, moins matures que les autres.
Oui, tout à fait. Et c'est ça qu'il faut faire attention parce que, vous savez, les neurosciences évoluent continuellement. Et d'année en année, de mois en mois, on a de nouvelles données, on a de nouvelles compréhensions. Et on sait, par exemple, que l'impulsivité, elle se contrôle très peu, en fait, avant l'adolescence. Donc, des enfants qui sont, spontanés, spitants, qui réagissent très rapidement, mais si on ne fait pas attention à leur âge biologique, eh bien, on risque peut-être éventuellement de se tromper. Et ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas besoin de... n'a pas besoin d'aide. Il faut qu'on l'aide, justement, cet enfant-là. Mais si on se trompe de diagnostic, on risque peut-être de se tromper de direction d'intervention et d'apporter une médication qui, parfois, règle une partie des problèmes à court terme, mais ne règle pas nécessairement le vrai problème de l'enfant, qui est j'ai besoin d'aide, je suis plus jeune, je suis désintéressé, ça ne va peut-être pas à la maison, et puis papa et maman se disputent beaucoup, ou je passe d'une maison à l'autre et j'arrive pas à trouver mes points de repère. J'arrive dans une classe et j'arrive pas non plus, moi, à trouver mon intérêt, parce que j'aime les maths, mais j'aime pas le français, j'aime le français, mais j'aime pas l'histoire. Donc, toutes ces petites choses-là qui peuvent influer sur le comportement ne sont pas nécessairement tenues en compte par les tests d'évaluation, et c'est là qu'on risque de se tromper de manière d'intervenir auprès de ses enfants.
Est-ce que, j'allais dire, pour peut-être le bien-être de la classe, c'est commode le diagnostic? Autrement dit, on met l'étiquette, on a un protocole, il y a des médicaments, le cas est réglé, même si, comme vous dites, on s'attaque pas au fond du problème, c'est comme, OK, on va avoir la paix avec celui-là.
Mais j'aurais envie de dire, c'est que l'enseignant, bon, on parle de pénurie pour l'instant, on parle d'enseignants surmenés, on parle d'une charge mentale énorme pour les enseignants. Parfois, c'est vraiment pas facile de gérer des classes actuellement. Les enfants changent beaucoup. Les écrans interviennent aussi beaucoup dans la capacité de concentration d'un enfant. Donc, si l'enfant est beaucoup trop souvent sur un écran, mais sa capacité d'attention, même s'il a le meilleur des professeurs qui est là, le professeur ne sera pas capable de capturer son attention de la même manière. Donc, il risque, le jeune va se désorganiser. Soit il va s'agiter, soit il va partir de la lune par manque de stimulation virtuelle. Donc c'est certain que le médicament va à court terme régler le problème social. Et l'enfant, il trouve peut-être une partie de ses réponses parce qu'il se fait moins souvent chicaner, il se fait moins souvent réprimander, il y a moins de pression sur lui à ce moment-là. Mais on n'a pas répondu aux vrais besoins de l'enfant, qui est de peut-être diminuer les écrans, qui est peut-être d'aider papa et maman à être plus cohérents, qui est peut-être d'aider le professeur à mieux gérer la dynamique de la classe. Et ce sont ces éléments-là qu'il faut s'adresser d'un point de vue sociétal pour répondre aux besoins des enfants.
En terminant, c'est une question assez centrale, pourquoi le Québec est numéro un de la prescription de ce type de médicaments là, pour les enfants TDAH?
Il y a deux grandes raisons qu'on peut voir ça. On avait regardé ça avec les pédiatres quand on est sorti il y a 3 ans. On avait d'ailleurs déclenché une commission parlementaire sur ce sujet-là. Le premier élément, c'est l'accessibilité des médicaments au Québec grâce à l'assurance médicaments. Okay. Comme l'assurance médicaments permet en fait assez facilement, même pour les personnes qui ont des difficultés financières, d'avoir ce support-là, il y a eu ce réflexe depuis 20-25 ans d'aller vers la médication pour solutionner éventuellement le problème. L'autre problème, c'est la plupart des services en psychologie ou en psychoéducation qui pourraient venir aider l'enfant sont dans le domaine privé. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des listes d'attente, même dans le privé comme dans le public, ce qui veut dire qu'il n'y a que les parents nantis qui peuvent éventuellement avoir le support. Il y a un troisième élément, c'est que pendant longtemps, et Jean-François Roberge a fait très attention pendant son mandat comme ministre, pendant longtemps, pour avoir des services à l'école, il fallait avoir un diagnostic. La crise sanitaire a permis qu'on désarime le service à l'élève avec le diagnostic, de manière à mieux répondre aux besoins de l'élève sans nécessairement avoir une pression d'aller chercher un diagnostic. Donc c'est un ensemble de phénomènes. Je pense que la plupart des personnes veulent bien faire. Malheureusement, l'enfer est parfois pavé de bonnes intentions.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.
Avec grand plaisir.
Au revoir. Joël Monzé est docteur en neurosciences. Juste une courte parenthèse. Discuter avec des pédiatres de ces cas, parce que la question n'est pas nouvelle, là. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de prescriptions? Puis je comprends qu'au Québec, il y a un système d'assurance médicaments. Mais c'est vrai que la pilule venait vite. Il y avait parfois une pression de l'école, une pression des parents aussi. Et ce pédiatre me disait, ben souvent, l'enfant arrive dans mon bureau et je me rends compte que c'est pas ça. Puis j'enlève la prescription. Puis je mets fin graduellement à la médication, puis j'aborde le problème autrement. Mais ça demande du temps. Ce qu'on a collectivement, de moins en moins.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Autre dossier important, le trafic des armes à feu, le commerce des armes illégales au Canada. On a appris donc que la Sûreté du Québec a maintenant un centre de dépistage national des armes à feu, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir centraliser toutes les informations sur les armes saisies au Québec. Le capitaine Martin Robert est avec nous. C'est lui qui est le responsable du Centre québécois de dépistage des armes à feu. Monsieur Robert, bonjour.
Oui, bonjour, bon matin.
D'abord, expliquez-nous comment ça fonctionne, la chasse aux armes illégales.
Oui, d'abord, ce qui est important de comprendre, c'est que les armes à feu qui vont être dépistées sont tous des armes à feu qui sont impliquées dans un crime. prime abord, vous comprendrez qu'il y a des armes à feu qui sont identifiables. Il y a des armes à feu qui ne sont pas identifiables. La distinction entre les deux, c'est que les armes qui sont identifiables comportent un numéro de série et permet par la suite de voir de quel endroit la fabrication est faite et de faire le chemin de l'arme du fabricant, du vendeur, jusqu'à temps qu'il arrive dans les mains de la personne qui a été attrapée avec un crime. Et on fait la même chose aussi avec les armes qui sont non identifiables. Donc, souvent, on va faire appel ou on va les nommer les ghost guns ou des armes de fabrication artisanale qui ne comportent pas de numéro de série, mais qui vont nous permettre aussi de cibler les fabricants, les pièces qui composent cette arme-là pour être capable de mieux cibler les armes à feu. Du moins le chemin qu'ils ont emprunté pour permettre de s'attaquer, dans le fond, à l'approvisionnement en armes à feu au Québec, au Canada.
Mais là, est-ce que je comprends qu'on centralise l'information sur, par exemple, toutes les armes qui ont été utilisées ou saisies?
Effectivement, on va centraliser les informations de toutes les armes qui sont impliquées dans un crime. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des armes à feu qui peuvent être en possession ou certaines personnes qui ne désirent plus avoir leur arme, donc ils vont la demander de la faire détruire ou des choses comme ça, ou des armes qui sont déjà immatriculées, enregistrées au niveau des permis. Ces armes-là ne sont pas dépistées parce qu'elles sont déjà enregistrées. Par contre, toutes les autres armes à feu qui sont impliquées dans un crime, tentative de meurtre, agression, eux autres vont tous être dépistés.
OK. J'aimerais ça avoir un portrait de ce marché des armes illégales. Ce qui circule au Québec, est-ce que ce sont des armes qui arrivent majoritairement des États-Unis? Est-ce qu'il y a des fabricants d'armes au Québec? C'est quoi le portrait?
En ce moment, l'image qu'on a, c'est que la plupart des armes à feu proviennent des États-Unis. Les armes à feu en fabrication artisanale, autant fabrication 3D ou fabrication avec l'importation de pièces, il y en a, c'est présent. Par contre, la plus grande majorité des armes qu'on retrouve présentement sont des armes qui proviennent des États-Unis.
OK, mais ça veut dire que, puis vous me corrigerez si c'est pas ça, que dans l'Ouest, des armes 3D, il y en a un peu plus qu'au Québec, là.
Effectivement, les statistiques vont démontrer qu'il y a un peu plus d'armes à feu 3D ou de fabrication artisanale dans l'Ouest du Canada. Mais en faisant un centre québécois de dépistage d'armes à feu, on va être en mesure de voir peut-être ce domaine de fabrication-là arriver au Québec, être plus près pour intervenir au moment avec des méthodes appropriées.
OK. Bon, on parle beaucoup des Américains. Avez-vous une bonne collaboration des Américains? Parce qu'on n'a pas tout à fait la même mentalité, la même philosophie là, des deux côtés de la frontière.
On a une très bonne collaboration avec les partenaires américains. D'ailleurs, on a un membre du bureau le bureau des alcools et tabac et les armes à feu explosifs qui travaille avec nous autres, souvent appelé ATF, qui est directement assis dans le centre de dépistage. Ce centre-là comprend des membres de la Sûreté du Québec, mais comprend aussi des partenaires du service de police de la Ville de Montréal, de l'Agence des services frontaliers du Canada, ainsi que le Bureau du contrôle des armes à feu. Donc, tout le monde est assis ensemble pour faire le meilleur renseignement possible en lien avec le dépistage des armes à feu.
OK. Là, je vous pose des questions que mes auditeurs ont en tête, c'est sûr, là. Est-ce que le fameux corridor d'Aquassassiné, c'est le corridor où transitent la plupart de ces armes à feu?
Ben, pour l'instant, on n'est pas en mesure de mentionner ça, M. Arcan. On est identifié les routes, peu importe le chemin qu'ils empruntent pour entrer au Canada. Et c'est possible que ça soit l'un des chemins empruntés. Mais pour l'instant, on essaie de cibler tous les chemins. Et l'image présentement qu'on a va être beaucoup meilleure lorsque le centre va être en place et qu'on va avoir dépisté pour les armes à feu, dans le fond.
Mais en fait, la question aussi, c'est est-ce que les armes illégales transitent par la voie terrestre? Est-ce que des gens vont aux États-Unis, commandent des armes, envoient ça par la poste? Ça rentre comment?
C'est exactement ce qu'on tente d'identifier à tous les jours depuis un bon bout de temps. Présentement, on envoie de façon terrestre. Oui, on envoie aussi postale. On sait qu'il y a de l'importation de pièces qui est faite, de pièces d'armes à feu, et la construction de l'arme à feu se termine au Canada. Donc, toutes les méthodes peuvent être faites et ça sera, je pense qu'on va avoir une meilleure image dans les prochains mois, les prochaines années.
On se souvient de l'arrestation du gars qui était avec sa petite maison sur le long de la frontière puis qui transportait des armes avec dans des sacs de hockey. Est-ce qu'on a ce genre, j'allais dire, d'intermédiaire quand vous faites vos opérations, quand vous faites vos saisies? En trouvez-vous des gars comme ça?
Ben, c'est l'une des saisies importantes, effectivement, qu'il y a eu en fabrication d'armes à feu, dans le fond, des pièces d'armes à feu. On travaille ces domaines-là. Des saisies importantes, oui, il y en a, mais c'est là-dessus qu'on travaille.
OK. Ça vaut combien une arme de poing sur le marché noir?
Dépendamment à quel niveau vous vous approvisionnez, la quantité que vous approvisionnez, le nombre d'armes, dans le fond, change le prix, mais entre 3 000 et jusqu'à 6 000 $ pour des armes de poing, c'est ce qu'on voyait dans la dernière année. Des armes longues, donc souvent on parle d'armes militaires, des AR-15, ces choses-là, ça peut aller jusqu'à 10 000, 12 000 $.
Wow.
C'est environ 10 fois le prix qui est le vrai prix là, lorsqu'on l'achète la nuitée.
Entre vous et moi, c'est-tu facile à faire entrer au Canada? Tu sais, la frontière est immense, on peut pas avoir des points de contrôle partout.
Ben, c'est ce qu'on va voir dans les prochains temps là, pour valider cette information-là.
Merci, M. Robert.
C'est un plaisir.
Au revoir. Capitaine Martin Robert est le responsable donc de ce nouveau centre québécois de dépistage des armes à feu. Tout ça, ça s'inscrit dans la lutte, évidemment, contre la violence urbaine, principalement, qu'on voit.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
L'Essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, dans Le Devoir, ce matin, on raconte le combat d'une mère. Elle est maintenant en cours d'appel parce que les équipes de soccer, c'est ce qu'elle demande, que les équipes de soccer soient mixtes. Elle souhaite que ses filles de 4 et 5 ans puissent être dans la même équipe que leurs amis garçons. Et ce qui est particulier dans ce cas-là, c'est que les enfants ont joué, ils étaient amis, et puis finalement, ils ont décidé que non, pour des raisons d'organisation. Elle a perdu dans une première étape en cours, et là, elle est maintenant en bataille devant la Cour d'appel du Québec. On verra si elle pourra gagner sa cause. Surtout que c'est des enfants qui vont là pour jouer, là, cet âge-là, là, c'est pas des ligues de compétition. Puis en plus, elle s'est fait répondre, semble-t-il, que c'est pas la même approche, gars-fille, des techniques d'entraînement qui sont quand même un peu différentes. La mère est avec nous, donc, Karine Bellemare. Madame Bellemare, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Parlez-moi d'abord de ces enfants, ces deux gars, ces deux filles. Ils ont commencé à pratiquer le soccer, puis ils jouaient ensemble.
Ils ont commencé à jouer ensemble dans le voisinage. C'est des voisins. Bon, il y en a un qui était notre voisin d'en haut, l'autre le voisin d'à côté. Puis c'est des enfants qui avaient 3, 4 ans, 5 ans. Là. C'est vraiment des tout petits. Ils jouent dans la cour de l'un, dans la cour de l'autre, montent en haut, montent en bas. Bref, c'est des enfants qui s'amusent beaucoup entre eux. Puis les parents, on se côtoie aussi à l'occasion.
OK. Mais une fois qu'on décide d'aller vers le sport un peu plus organisé, comment ça s'est passé?
Ben là, c'est ça. Il y en a un des parents, on voulait justement essayer une activité qui pouvait jouer les quatre ensemble. Puis, il y a un des parents qui a proposé des inscrire au soccer. Donc, on les inscrit au club de soccer dans notre quartier antique. Et puis, on les inscrit à la session hiver. Mais là, on parle de 2016. Hein. Il y a quand même 6-7 ans. Là. C'est pas récent, cette situation-là. Là. Donc, on les inscrit à la session hiver. À chaque dimanche matin, on se rend là-bas. C'est du récréatif, évidemment. Du récréatif, là, c'est vraiment des mini-parcours avec des petits cônes. Les enfants essaient de suivre le ballon, suivre les consignes. C'est vraiment la base du soccer. À la fin, il y a une tentative de petit match qui essaie de bien indiquer aux enfants où lancer le ballon, mais c'est pas clair. Mais bref, c'est vraiment dans un esprit d'amusement et ludique. Là.
OK, mais ce sont les petits gars puis les petites filles qui jouent ensemble.
Oui, 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 la session d'hiver, c'est comme ça. Puis tout se passe bien, là, je vous dirais. Là.
OK. À quel moment ça se gâte?
Ah, ben là, c'est ça. Là, la session prend, je crois, on arrive à la aux trois quarts de la session. Puis la coordonnatrice présente la future session qui était la session été. Donc, les enfants, ça bouge un peu, mais là, j'entends la coordonnatrice dire qu'il allait avoir deux parcs. Donc, là, elle présentait les deux parcs, un avec des lampadaires, avec du terrain, avec du gazon synthétique, l'autre, ça l'était pas. Fait que là, j'essayais de comprendre c'était quoi l'idée des deux parcs. Fait que là, je regarde le formulaire, puis là, je m'aperçois que les horaires, c'est différent, évidemment, parce que là, c'est deux fois semaine. Et puis, je m'aperçois que dans un des parcs, c'est les petites filles et dans l'autre parc, c'est les petits garçons. Fait que là, je suis allée voir la coordonnatrice qui avait plein de questions de plein de parents. Puis je lui demande, ah, je vois que cet été, c'est divisé garçon-fille. Puis là, elle me dit, ah oui, l'été, c'est divisé. Puis je lui demande, mais pourquoi? Puis là, elle dit, ah, je saurais pas quoi vous dire, mais là-bas, l'entraîneur en chef pourrait vous donner les explications. Donc, je me rends à l'entraîneur en chef pour lui demander, pour quelle raison l'été c'est différent, pourquoi vous c'est séparé garçon-fille l'été.
Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
Ben oui, c'est là qu'on me dit, ben les garçons et les filles, c'est différent. Fait que là, je lui dis, OK, c'est différent, qu'est-ce qui est différent? Puis là, je lui montre, admettons, avec mon pied, tu sais, la technique, c'est différent, c'est qu'est-ce qui est différent? Donc là, il me dit, ben l'attitude entre les garçons et les filles, on n'enseigne pas de la même façon aux garçons et les filles. Les filles, c'est plus fragile.
OK, mais est-ce que la vraie raison, c'est que l'hiver, on a moins de joueurs, donc on peut les regrouper, puis l'été, on en a plus, donc on fait des équipes différentes?
Ben à ce moment-là, c'est pas la raison qu'il nous donne.
OK.
Ben à ce moment-là, non, parce que je lui présente comme Juliette et Ulysse qui viennent d'arriver à mes côtés, puis je lui dis, ben par exemple, cet été, est-ce qu'ils pourraient jouer ces deux-là ensemble? Puis là, il me répond, il dit, ah non, ça pénaliserait Ulysse, ça pénaliserait le petit garçon s'il jouait avec les filles.
Et en quoi ça le pénalise?
Ben là je regardais l'entraîneur, puis là, je regardais mes enfants, puis là, j'essayais de comprendre. Il y avait un point d'interrogation dans mon visage, mais bon, il ne poussait pas plus loin l'explication. Là, vu qu'il n'y avait pas de possibilité d'accommoder mes enfants, ben là, j'ai quitté le gymnase. Puis la coordonnatrice m'a dit, puis est-ce qu'il a répondu à vos questions? Puis là, je lui ai dit, ben, plus ou moins, là, il m'a expliqué que les filles, c'est plus fragile. Donc, non, j'ai pas eu cette réponse-là, moi, initialement.
Mais il y avait... on va être obligé de conclure, mais est-ce que quand même, dans votre cas, là, c'est une bataille. Vous êtes allé en Cour du Québec, vous avez perdu, puis là, vous êtes rendu en Cour d'appel.
Oui, bien même au début, on est allé en médiation. On a essayé de trouver, parce que nous, les propos de tenue étaient comme, selon nous, stéréotypés. Puis en plus, la non-possibilité de nous accommoder à ce moment-là, on trouvait que c'était pourtant assez simple de nous accommoder pour nos enfants. Donc, là, ça a été en médiation. Après ça, ça a été devant le tribunal des droits de la personne, avec la commission des droits de la personne, heureusement. Et puis, la décision a été rendue. Puis là, on est rendu en appel de décision. Et donc, hier, c'était en appel.
Allez-vous vous rendre jusqu'à la Cour suprême?
Ça, c'est une excellente question.
Je vous laisse y penser. Merci d'avoir été avec nous.
Merci, monsieur.
Au revoir. Karine Bellemare, donc la mère de ses enfants, petit gars, petite fille, puis là... Et le juge a dit qu'ils n'avaient pas été lésés en cour première instance, la Cour du Québec, en disant que ils pouvaient jouer, que les terrains étaient similaires, que les ressources étaient les mêmes, et que bref, il n'y avait pas de discrimination. Mais là, on parle toujours d'enfants là, de 5-6 ans au début, là, 7 ans, qui vont jouer strictement pour le plaisir.
L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler de télé maintenant, parce que c'est une saison qui reprend, évidemment, après le congé des fêtes, mais c'est une année marquée par un événement majeur en télévision. D'abord, le départ de District 31, un, et deux, l'arrivée de deux séries quotidiennes. On n'a pas vu ça au Québec, là. On avait District 31, il y avait des séries que Fabienne faisait avant, mais de voir cette espèce de combat au quotidien, c'est quelque chose. Et j'ai pensé en jaser ce matin avec une productrice, scénariste, qui est pas très, très occupée, là, quand je regarde son portfolio, là, avec une couple de séries. Fabienne Larouche est avec nous. Bonjour, Fabienne.
Allô, Paul.
On peut dire que t'as quelques séries à l'antenne de ces jours-ci.
Oui, ben quelques séries à l'automne, on en a eu qu'une coproduite avec Guillaume, donc beaucoup de séries, mais bon, ça arrive comme ça. Il y a des saisons où t'en as plus, des saisons où t'en as moins, mais là, la vie est bonne pour nous.
Ouais, oui, et là, je veux qu'on parle de stats pour commencer, puis avant de parler de la série actuelle, là, quand la décision est prise que c'est terminé District 31, comment on se revire, puis comment on décide qu'on s'en va vers le monde de la santé, vers une série dans un hôpital? Comment tu as décidé ça?
Ben d'abord, on voulait pas recommencer, là. On s'entend que Michel, mon coproducteur, et Marie, il disait, Fabienne, on a eu pendant 20 ans Virginie, 30 vies, et puis là, on a eu 6 ans de bonus avec Luc, on finit, c'est fini, là. On en fait. Puis moi aussi, j'étais d'accord avec cette décision-là. Tu sais, quand on a décidé au mois de novembre, c'est fini. Mais là, Paul, la Scorpion étant ce qu'elle est, sa nature étant ce qu'elle est, là, Radio-Canada est revenu un peu à la charge, Danny Mellul, André Béraud. Puis là, ben, je vais te dire, on s'est retrouvés là à cause du talent de Marie-André Labbé. Parce que Marie-André, un peu comme Luc, c'est le pétrole. Alors, si Marie-André avait pas décidé, avait pas voulu commencer cette aventure-là, ce missionnariat-là, c'est sûr qu'on serait pas là. Mais puis, tu sais, j'ai quand même 27 ans d'expérience, donc je sais que la quotidienne, faut que tu rentres des cas, tu sors des cas. L'école, c'était ça, parce que rendre des élèves, rendre des enseignants, bon, chaque année. Luc, c'était la même chose avec District 31, tu sais, ils rentrent sort des cas, des meurtriers, des abuseurs, etc. Et pour moi, qui avait fait deux séries dans les hôpitaux, trauma puis urgence, il y a longtemps, je me disais ça aussi, parce que c'est un microcosme, tu sais, c'est très fort, c'est très dense, et il y a des personnages là, puis tu rentres des cas, tu sors des cas. Alors, il fallait trouver un auteur, puis Mais toute cette décision-là, il y a un an, là, Paul, on ne savait pas là, qu'on ferait ça. On savait pas que, tu sais, moi, on voulait pas prendre toute la pression, donc on s'est associé avec Guillaume L'Espérance. Tu sais, il y a eu beaucoup à faire, puis en même temps, il y a eu peu, parce qu'à partir du moment où tu as une auteure inspirante, inspirée, tu as une équipe qui veut te suivre, parce que on s'entend que c'est un peu la même équipe technique, Daniel Métaux qui a pris ça à la réalisation. Écoute, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Puis, une équipe d'acteurs. On s'entend que Suzanne Clément arrive, Normand Damour, Stéphane, Geneviève, English.
Mais au-delà, écoute, ouais, mais j'allais te dire, au-delà de...
Là, gars-là, je suis en train de t'offrir toute la nomenclature de ça.
C'est correct.
À un moment donné, tu dis, OK.
Mais ce que je veux te mentionner...
Mais c'est toujours à recommencer.
Oui, mais ce que je veux te mentionner, c'est que ça se passe, oui, dans un hôpital, mais là... Je l'ai presque dit, c'est District 31 dans l'hôpital, c'est-à-dire un criminel qui rentre, une fusillade, l'autre qui se fait sauter devant la porte de l'hôpital. Tu sais, on n'est pas juste dans des événements médicaux ou dans un univers...
Non. Hein? Non, parce que c'est que ça aussi, l'hôpital. Marie-André, là, tu sais, nous autres, on a des conseillers autour de ça, le Dr. Wynn, Black Boncoeur, les Tourneaux. Tu sais, il y a des recherchistes autour de ça. Louise Marie, on a, tu sais, les cas de Marie-André, oui, on les vire à l'envers. Un peu comme Luc, un peu comme je faisais à l'école. C'est, tu sais, la création pure, elle existe-tu? Je ne sais pas, Paul. Mais c'est sûr que ça part de quelque chose qu'on a entendu, qu'on nous a raconté. Alors ça, oui, tout ça se peut. À un moment donné, on va au-delà parce que c'est de la fiction, bien entendu. Mais c'est ce qui fait que le téléspectateur, il est là à 7 heures aussi.
Oui,
c'est ça.
OK. La quotidienne, tu connais ça depuis 27 ans. Là, d'avoir une bataille, est-ce que pour toi, d'abord, c'est une bataille quand tu sais qu'il y a une autre série quotidienne à la même heure, à l'autre chaîne? Indéfendable.
Ben, en fait, je pense que les choses ne sont pas l'un contre l'autre. C'est deux offres différentes, d'abord. Puis les chiffres, notre code d'écoute, sont c'est cumulatif jusqu'à 11 heures. Tu comprends? Fait que c'est sûr que... moi, je pense que les gens écoutent une série après l'autre. Moi, je pense pas qu'il y a 3 millions de personnes.
Penses-tu que les gens écoutent les deux séries ou les gens font un choix maintenant?
Non, d'après M. Léger, là, d'après oui. les sondeurs, ils écoutent les deux parce que nous, on est un peu en avance sur eux tout le temps, mais tu sais, on n'est pas, on décolle pas, là. Je veux dire, on fait pas 1,5 puis eux autres 800 000. On est tu sais, à 100 000, 150 000, 200 000 de différence. Donc, les gens l'écoutent. Mais je veux dire, est-ce qu'on croit les codes d'écoute?
Ben, au moins une tendance, en tout cas, ça peut peut-être pas...
Ben, c'est ça, c'est pas la réalité, c'est un sondage, je connais ça mieux que moi, donc c'est dépendant de la manière de mesurer, mais effectivement, c'est des grandes tendances. Fait que moi, je pense que les téléspectateurs, ils écoutent de plus en plus en différé, en écoutent en direct, puis l'autre après. C'est ce que je crois, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a 3 millions de personnes ensemble à 7 heures du lundi au jeudi. Écoute, peut-être... Mais comme je te dis, les maintenant, c'est cumulatif jusqu'à 11 heures. Ouais. Alors... Donc, c'est ça. Voilà.
Parle-moi de la prochaine série là, qui commence. Je pense que le lancement, c'est justement la semaine prochaine. Les yeux fermés sur ici, tout.tv. C'est avec Magali Lépine-Blondeau.
Oui, ça, c'est un teaser. Écoute, ça, c'est une enquête citoyenne. Anita Rowan, c'est une auteure qui a fait ses classes depuis bien des années. Et là, tout à coup, c'est sa première série cassée. Et ça, c'est toujours bien excitant pour un producteur parce que t'amènes quelqu'un qui a du talent à se faire voir, tu sais, à ce que les gens puissent écouter sa création. Donc, avec Magali Lépine-Bondeau, tu sais, Magali, elle a fait, moi, je l'ai connue sur District, ça a été incroyable. On a eu une belle expérience ensemble, et puis un super contact, et puis elle fait Sans rendez-vous aussi, ça, c'est une série coquine à Radio-Canada. Et là, elle est venue faire ce 6 heures-là. Ça, c'est intéressant parce que, tu sais, quand moi, j'ai commencé ma carrière, il y avait des 13 heures. Puis après ça, il y a eu des 4 heures, des 8 heures, des 12 heures. Puis là, ça, c'est un 6 heures. Alors ça, c'est juste un petit... Tu sais, dans le temps, là, c'est fermé. C'est un 6 heures. Tu peux écouter ça. C'est à tout.tv extra. Tu écoutes ça, c'est pas long. Puis voilà. Et puis, c'est une enquête citoyenne. Alors, c'est on retourne dans le temps. C'est une sœur qui veut comprendre qu'est-ce qui est arrivé à son frère? Il s'est suicidé, il était victime de meurtre, mais pourquoi il s'est suicidé? Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà.
Okay.
Alors, c'est encore un suspense. Comme à cœur battant, tu sais, présentement, il y a aussi à cœur battant, Paul, que ça, c'est sur la violence familiale oui. intra-conjugale. Ça, c'est un autre... Tu sais, Daniel Trottier s'est penché sur un problème de société grave. Et ça, c'est bien intéressant aussi. Donc tu sais, c'est 5-6 séries qui sont inspirantes. Là, voilà.
En terminant, la question des auditeurs, la série à venir de Luc Dion, est-ce que ça avance? Ça va être prêt quand? On va voir ça à quel moment? Ça parle de quoi?
Luc qui est en Floride présentement, qui revient dans 10 jours. Okay. Il y a une semaine, il était ici. Fabienne, là, était là. Depuis début septembre, qui est en train d'écrire ça, le bol, qui a commencé. Et puis là, il me dit, je vais rester ici pendant un mois et demi. Là, avant hier, il m'appelle, il me dit, je suis rendu en Floride. Je dis, comment t'es rendu en Floride? Il dit, oui, je reviens dans 10 jours, là, arrête! Alors, Luc, c'est sûr que, tu sais, Luc, c'est un grand auteur, brillant, mais il y a un peu les quételles, là. Il y a un peu ses nerfs, parce que, tu sais, t'es aussi fort que ce que t'as fait, là. Oui, là, il est très fort, mais il y a un peu la chienne, alors, mais ça va être extraordinaire. Son premier épisode, il est vraiment d'aplomb. Il est vraiment d'aplomb. Alors là, on continue, mais ça va être... écoute, ça devrait être en janvier prochain, peut-être.
OK.
Ouais.
Puis le sujet, c'est quoi, là, en gros?
Mais là, je sais pas. Là, t'en as-tu parlé? Appelle-les donc. Parce que moi, je sais pas trop. Je suis bavarde avec toi. Hein, fait que
comment tu le sais pas? Tu veux
avoir... Ben oui, je le sais, mais là, je sais pas si... tu sais, Luc, il est bon pour parler de ses séries. Là. Ouais, je vais pas le scooper.
Non, mais sans le scooper, dis-moi juste dans quel univers, mettons.
Ben, c'est sûr qu'il y a du suspense.
OK, ça, oui.
Puis on n'est pas dans la police, on se pose de la police, mais on n'est pas loin de la police. La police, ça marche, Paul. Le monde aime ça, la police. Je veux dire, on écoute ça, on écoute des choses, mais... Les shows américains, on aime, quand on s'assoit, on a le goût d'être surpris, d'avoir peur, de rire. Tu sais, moi, j'aime bien le suspense. Moi, je suis une fille de polar. Fait que, alors, Luc, il est vraiment tombé dans moi ce que j'aime. Donc, là, ça va être ça. C'est sûr qu'il y a du suspense. Il est en train d'écrire. Il est en Floride, il va s'en venir, il est en forme. Il n'a pas écrit pendant quand même de avril à, je te dirais, à septembre. Fait qu'il est tenté, il a hâte, mais il est fébrile. Il est nerveux, il veut que ça soit bon, il veut pas, tu sais. Puis moi, j'ai dit, regarde, Luc, on perd pas son talent en 8 mois, là. On a des belles conversations.
Ben, je vois ça. Fabienne, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec
nous. Ça m'a fait plaisir, Paul. À la prochaine.
Salut, merci. À bientôt. Fabienne Larouche, c'est quand même, comme on dit, un léger portfolio à l'antenne. Stats du lundi au jeudi, doute raisonnable, toujours à Radio-Canada, lundi 21h, à cœur battant. On a parlé il y a quoi, 2 semaines. Sans rendez-vous, le bonheur, la crise de Michel Jorel, c'est ça. Et les yeux fermés, ça aussi, ça prend l'affiche. Alors, vous voyez quand même, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'action ici.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.